Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour à tous et à toutes, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Carnet de région, magazine hebdomadaire et collaboratif, préparé et proposé par les radios associatives du Languedoc-Roussillon. La rédaction du numéro de cette semaine est assurée par RCF Pays d'Aude, avec les deux voix de Nathalie Dessos et Jérôme Bozon. Au sommaire de cette émission, Radio Aviva a rencontré la ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité, Sylvia Pinel, de passage à Montpellier à l'occasion de son Tour de France de la Construction. En Lozère, pour les 20 ans de l'eau de source Quézac, Nestlé annonce vouloir se séparer de la marque au micro de 48 FM Monde. Et pendant ce temps, dans l'Hérault, la lutte continue pour la défense de la culture en milieu rural. Au micro de Radio Lodev, nous reviendrons sur la mobilisation pour sauver le Festival des Voix de la Méditerranée. Et que serait la culture sans les intermittents du spectacle? Radio Escapade donne la parole à l'un d'entre eux peu de temps avant son procès qui aura lieu à Rodez le 17 février. Retour dans l'Hérault au micro de RCF Maguelon-Hérault qui donne la parole à des riverains qui se mobilisent face à la décharge de Castries, structure en plein développement anarchique. Certes, l'été est encore loin, mais les services de l'État lancent un nouveau numéro pour les secours en mer, le 196. Nous en apprendrons plus au micro de RCF Pays d'Aude avec le délégué Mer et Littoral, Aude et Pyrénées-Orientales. Et pour finir, avez-vous vu le loup ? Eh bien, des traces indiquent qu'il serait maintenant dans le nord du département de l'Hérault et c'est Radio Pays d'Hérault qui mène l'enquête.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
La ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité, Sylvia Pinel, était de passage à Montpellier le 9 février dernier. Elle poursuit actuellement ce qu'elle appelle un Tour de France de la construction. Une opération qui l'amène à rencontrer les acteurs de la construction dans chaque région pour préparer un projet de réforme dans ce domaine. Radio Aviva a posé deux questions à la ministre. Une question sur la construction et la loi sur l'accessibilité des bâtiments aux personnes en situation de handicap. Mais d'abord, la ministre est interrogée sur la construction et l'emploi en Languedoc-Roussillon. Pourquoi, en effet, dans une région qui construit autant, le domaine de la construction n'offre pas plus d'emplois. La réponse de Sylvia Pinel.
C'est important de souligner que nous sommes dans une région qui construit et que la métropole de Montpellier est une métropole qui construit, qui se développe. Et c'est important. Ce matin, j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs réalisations exemplaires, que ce soit à Prades-le-Lez, un écoquartier, mais que ce soit également à Montpellier avec le quartier de Port-Marianne. Nous avons là des réalisations exemplaires, des réalisations qui montrent qu'on peut, avec du volontarisme, construire des logements et qu'il faut garder une ambition haute en termes de qualité architecturale, mais aussi de qualité environnementale. Et c'est ce qui a été fait ici. Donc oui, et pourquoi le faire ? À la fois, bien sûr, pour répondre aux besoins de logements exprimés par les habitants de cette région, mais aussi pour répondre à cet impératif économique qui est la création d'emplois, le retour de la croissance. On sait aujourd'hui que dans la faible reprise de la croissance dans notre pays, c'est la part du logement, c'est la part de la construction qui fait défaut. Donc nous devons mettre tous les moyens et toute notre énergie pour relancer la construction avec des outils pragmatiques, efficaces et souples, et nous devons les améliorer lorsque cela est nécessaire. C'est le sens de ce Tour de France de la construction.
Juste un mot sur l'accessibilité. Mercredi, en fait, les 10 ans du vote de la loi. Les constructeurs sont particulièrement inquiets des coûts que cela peut entraîner. Comment est-ce qu'on peut faire pour concilier constructeurs et associations de défense des personnes en situation de handicap pour que tout le monde tombe d'accord?
C'est important de souligner que c'est un équilibre qui doit être trouvé, qui est un équilibre entre les besoins légitimes des personnes connaissant un handicap et les coûts de construction et la manière de construire pour ces personnes ou d'avoir des projets qui sont toujours tous en accessibilité alors que ça ne correspond pas forcément aux besoins. C'est ce travail que nous avons mené en lien avec les associations, avec les professionnels de la construction pour adapter les règles de manière à ce qu'elles soient efficaces, efficaces pour les personnes porteuses de handicap, mais efficaces aussi pour les constructeurs. Et nous avons proposé un certain nombre de mesures en juin, 12 mesures concernent l'accessibilité. Elles sont aujourd'hui en cours de notification devant les instances compétentes et nous saisirons ensuite le Conseil d'État pour validation. Ce travail il a été fait dans la concertation, comme toutes les mesures de simplification que j'ai engagées, parce qu'il faut trouver un équilibre. Et c'est ce que nous avons proposé. Et une fois que ces procédures et ces normes auront achevé leur processus de concertation normale et réglementaire, nous pourrons les publier. Mais je souhaite que nous puissions préserver l'état d'esprit qui a présidé à l'élaboration de ces normes, à savoir un travail de terrain, un travail approfondi, un travail de discussion avec les associations représentant les personnes handicapées. C'est pour moi essentiel nous y veillons, même si effectivement parfois les enjeux peuvent paraître contradictoires, mais en réalité ils ne le sont pas.
La ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité répondait à Gilles Geoffrey pour Radio Aviva. Le groupe Nestlé Waters, un peu à la surprise générale, a annoncé la mise en vente de sa marque Kezak. Surprise, car l'eau minérale lozérienne qui fête cette année ses 20 ans fait des bénéfices. Depuis, aucune explication sur cette décision. Les salariés de l'usine se sont rassemblés ce mardi à l'appel de la CGT pour peser dans les négociations. Ludovic Terol de 48FM s'est rendu sur place.
Qu'est-ce qu'appelle Orio à vendre, Nestlé nous vend l'année de nos 20 ans. Voilà les slogans affichés ce mardi sur la façade de l'usine Kezak où une centaine de manifestants étaient rassemblés pour soutenir les salariés à l'appel de la CGT. Pour rappel, le groupe Nestlé Waters a annoncé sa volonté de vendre la marque sans autre explication. Un rassemblement donc pour soutenir ses salariés mais également pour peser dans les négociations. Écoutez Pascal Frazzoni, secrétaire syndical CGT de la source Kezak, qui a appelé à la mobilisation.
Aujourd'hui, donc, on n'est pas vendu, on n'est pas en péril, on n'est pas en conflit. On reste mobilisé par rapport aux annonces qui ont été faites par Nestlé. Donc, tout simplement, on a voulu un rassemblement pour en informer la population et aussi informer nos responsables Nestlé qu'aujourd'hui, on ne lâchera rien. Nestlé reste très très vaste sur la cause de la vente. Aujourd'hui, nous avons de très très bons résultats par rapport à 50 salariés. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes que 50 salariés. Nous ne sommes pas une entreprise comme nos collègues de Perrier ou de Vitel-Cotterêts qui sont là aujourd'hui et qui sont là pour nous soutenir sur les attaques de Nestlé. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, le concret, c'est que des curieux sont venus la semaine dernière sur le site. L'usine est vraiment en vente, c'est officiel. Mais aujourd'hui, la marque Kezak a quand même une notoriété, a quand même un chiffre d'affaires qui est quand même important au niveau national. Et ce n'est pas toutes les entreprises qui sont aujourd'hui à la hauteur d'acheter Kezak.
Et ce sont une centaine d'emplois qui sont en jeu entre les salariés et les sous-traitants sur le bassin de vie de Kezak-Ispagnac. Et parmi les manifestants, de nombreux élus, parmi lesquels la maire de Kezak, Flore Théron.
L'usine de Kezak représente à la fois pour Kezak et Ispagnac, car je rappelle que Ispagnac abrite l'usine et Kezak possède la source. Ça représente au niveau du bassin d'emploi une centaine de personnes, ce qui n'est pas négligeable. Et puis c'est un fleuron au niveau de notre industrie lozérienne. Je crois que nous sommes dans le cadre d'une procédure qui est normale, c'est-à-dire que les offres sont en cours. Et le groupe prendra sa décision. Pour l'instant, soyons sereins, mais soyons vigilants. Et nous espérons que s'il y a un repreneur, eh bien, les personnels pourront continuer à œuvrer comme ils l'ont toujours fait et qu'au niveau du bassin d'emploi, nous aurons une situation stable comme nous l'avons actuellement. Nous l'espérons.
Et les syndicalistes CGT de Perrier dans le Gard et de Vitel-Cotterêts dans les Vosges sont venus soutenir leurs collègues. Olivier Almeiras, secrétaire du syndicat CGT de la source Perrier.
Ce qui inquiète un peu plus les salariés, c'est le fait que Nestlé dit éventuellement Kezak pourrait être à vendre, alors même que rien ne le justifie. L'usine, économiquement, elle se porte bien. C'est une société qui rapporte de l'argent, qui doit fêter ses 20 ans cette année, et ça démarre mal, puisque finalement, on dit, si quelqu'un fait une offre qui peut être intéressante, on est prêt à céder. Donc c'est ce qui choque les salariés. C'est une source minérale, je veux dire, on ne fabrique rien, c'est pas quelque chose qui est ludique, qui est substantiel, non, c'est de l'eau, c'est vital, voilà. Donc on ne peut pas traiter ça simplement comme un produit marchand, et on peut comprendre que les salariés sont inquiets, surtout que Nestlé a quand même des exigences au niveau de sa production, au niveau de la qualité de ses produits. On demande toujours aux salariés de faire des efforts, de raisonner Nestlé, les valeurs Nestlé, et puis du jour au lendemain, on vous dit, bon, éventuellement, si on a une offre intéressante, on peut vous céder. Voilà.
et 4 repreneurs se seraient renseignés, des repreneurs qui pour l'instant préfèrent rester anonymes. Et à noter que l'usine de Quézac vient de faire un chiffre d'affaires qui s'élève à 15 millions d'euros.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Les soutiens aux voix de la Méditerranée affluent depuis l'annonce de la disparition du festival de poésie, faute de financement suffisant. Plus de 6000 personnes ont signé la pétition lancée par l'association des voix amies de la Méditerranée, alors qu'une manifestation de soutien a été organisée le week-end dernier à l'Odève. On écoute Marie Poitevin, qui fait partie des acteurs culturels de la ville, qui se mobilise au micro d'Anne Martinez de Radio L'Odève.
Alors, ce qui s'est passé hier soir, c'est qu'on était réunis, les acteurs culturels, pour écouter la nouvelle proposition, c'est-à-dire un festival qui coûte quand même 180 000 euros, je crois, mais où il n'y aurait plus de poètes. Voilà, donc 17 ans d'existence, l'âme du festival, on n'en parle plus. Donc en effet, les acteurs culturels étaient tous en mécontentement et en désaccord avec cette proposition. Et on a senti une ouverture de la part de la mairesse et une compréhension par rapport à notre mobilisation. Alors plus de 5 500, maintenant 6 000 avec les pétitions papier. Une grande mobilisation de la part des poètes et de beaucoup d'acteurs culturels nationaux. Et vraiment une volonté que ce festival des voix de la Méditerranée, ce festival de poésie, continue à exister. On ne peut pas taire ces voix de la Méditerranée, et surtout cette année, avec ce qu'on a vécu au mois de janvier, c'est ce festival-là qu'on attend, un festival de partage, de liens, d'échanges et d'intelligence culturelle véritable. Il y a déjà des partenaires qui se sont réveillés, un partenaire de la communication qui était prêt à financer la partie communication gratuitement. Je suis persuadée et pleine d'espoir pour qu'on trouve des mécénats privés et des souscriptions de gens pour que ce festival-là, comme il était, qui était déjà bien réduit puisqu'il n'était plus que 4 jours, continue à exister. Pour moi, le Festival des Voix de la Méditerranée, c'est le poumon de la culture de cette ville.
Sophie Pessetto est artisane d'art. Elle soutient le festival et une politique des métiers d'art qui fait, elle aussi, partie des compétences menacées par la baisse des dotations d'État qui amène la communauté de communes à faire des choix.
Alors, on accroche des plumes aux grilles de la mairie. Voilà. C'est quoi? C'est un symbole pour...
C'est un symbole, oui, de la plume, de l'écriture. On est là pour sauver ce festival parce que ce festival a un sens plus que tout à l'Odève, pour toutes les cultures, pour tous ces moments de joie partagés. On ne peut pas supprimer ce festival ici, c'est pas possible. Il fait partie de l'identité de la ville. Il est ici, c'est pas pour rien, donc sauvons-le. Même s'il y a des restrictions de budget, ok, d'accord, mais bon, c'est pas pour cela qu'il faut tout arrêter. Et le salon aussi des créateurs et la galerie Horizon Intérieur. Il faut penser aussi aux gens qui sont venus s'installer à l'Odève avec le festival pour les métiers d'art, qui ont acheté des maisons, qui payent des impôts, qui sont là tous les jours. Il faut penser à la solidarité, il faut penser aux gens qui ont besoin, bien sûr, mais être élu, c'est penser à tout le monde. Et on a besoin d'art, on a besoin de culture, on a besoin d'artisans. Je veux dire, tout n'est pas fabriqué en Chine. Nous, on a des métiers, on est là à l'Odève pour travailler aussi, parce que ce n'est pas toujours facile, mais on est là, on participe à tout ce qu'on peut. Parce que quand le musée réouvrira dans 2 ans, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus d'artisans, il n'y aura plus de poètes, il n'y aura plus rien, il y aura qui? C'est pas ça qu'on veut pour l'Odève. L'Odève a rebondi avec la culture, avec le musée, avec les métiers d'art, avec tout ça. Il ne faut pas l'oublier comment cette ville a rebondi. Ce n'est pas une histoire de politique, c'est une histoire d'humanité.
Un collectif Sauvons les Voix s'est réuni en début de semaine et a mis en place plusieurs groupes de travail pour tenter de sauver ce qui peut l'être encore. Et puis, soutien inattendu aux voix de la Méditerranée, celui du président du Conseil Général de l'Hérault, André Vizinet, qui lundi, lors des sessions du vote du budget, annonçait l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 70 000 euros au festival. À suivre. Le 30 mai dernier, en pleine crise des intermittents, François Hollande se rend à Rodez pour visiter le musée Soulages. L'occasion est trop belle pour le CIA, le collectif des intermittents aveyronnais, de faire entendre leurs revendications au président. Oui, mais voilà, sur place, un cordon de CRS, les esprits s'échauffent, et Victor Paulet-Villard, un des manifestants, est arrêté et placé en garde à vue par les forces de l'ordre qui l'accusent de violence à leur encontre. 9 mois plus tard, le procès se déroule à Rodez, préfecture aveyronnaise, et un collectif s'est monté pour défendre Victor. Mais pas que. Comme nous l'explique Benoît Sanchez, le porte-parole du CSIDS, le comité de soutien aux inculpés du dialogue social.
C'est un comité pour tout d'abord soutenir Victor et organiser le jour de son procès, le 17 février, un rassemblement pour soutenir toutes les personnes qui sont victimes de la répression du mouvement social. L'idée, oui, c'était ça, c'était de dire à un moment donné que ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est la casse de tous les droits sociaux dont le régime intermittent fait partie, et le droit des chômeurs, plus après, qui va bien plus loin que ça, notamment par exemple la lutte des paysans, la lutte des syndicalistes, voilà, par rapport à leur outil de travail. Bon, en gros, c'était de dire qu'à un moment donné, on est tous concernés par ça, et c'était de converger ensemble pour monter une lutte, voilà, pour la défense de nos acquis sociaux. Ce qu'on s'aperçoit, nous, par rapport à la lutte des intermittents précaires qui avait été menée l'année dernière, c'est qu'il y a eu une attaque idéologique faite du MEDEF à l'aide de la CFDT sur justement le droit des chômeurs. Et du coup, c'était pour ça que le 30 mai dernier, quand François Hollande est venu inaugurer le musée de Soulages, on a organisé une manifestation qui rassemblait plus loin que les intermittents et précaires. C'était une manifestation contre l'austérité et la précarité. Eh bien, on a voulu instaurer un dialogue social avec François Hollande. Et c'est là où, en fait, des CRS, c'est eux qui ont instauré ce dialogue-là et qui a été assez violent, puisqu'on a été gazé, matraqué, et Victor s'est retrouvé attrapé par les CRS.
Victor Paulet-Villard, qui n'est pas connu des services de police jusqu'alors, et qui a toujours nié avoir levé la main sur les forces de l'ordre. Il raconte sa version des faits.
On est rentré au contact des CRS parce qu'ils nous barraient le passage pour aller au musée Soulages. Hein, donc on était à peu près un groupe de 80. Au moment où on est rentré au contact, ça a duré 10 secondes. Ils nous ont repoussé à coups de gaz et moi, à ce moment-là, je me suis baissé pour éviter les gaz et c'est là qu'ils m'ont attrapé, en fait. Donc après, j'ai passé 6 heures en garde à vue. Et c'est pendant cette garde à vue qu'on m'a appris que deux CRS portaient plainte contre moi pour coups et blessures. Et bien, en fait, un des CRS n'a pas d'ITT, pas d'arrêt de travail, selon le rapport du médecin. Et le deuxième a un conseil d'arrêt de travail de moins de 8 jours. C'est un petit peu dur de s'avancer si on prend cette affaire sous l'angle pénal. Ça peut être de la prison avec sursis, du TIG, des amendes, etc. Mais tout ce qu'on met en place pour le 17 avec l'avocat et les témoins, c'est évidemment de se défendre, parce que je n'ai pas porté de coup.
Ce sera donc sa parole contre celle des CRS, verdict ce mardi 17 février à Rodez. Un sujet proposé par Rémi Goujon de Radio Escapade.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
La décharge de Castries, un dossier bientôt européen ? C'est en tout cas le souhait des associations contre l'extension de la zone à l'est de Montpellier. Trop puante et surtout trop polluante. Oui, Castries est un problème pour Greg Solinas. Mais il faut aussi regarder plus en amont pour ce membre du collectif Saint-Drézézy, Nature-Environnement.
Il était prévu au départ qu'il n'y ait qu'une exploitation réduite du site. Et là, on a un vrai problème, puisque depuis le mois de mai de l'an dernier, nous avons eu une extension, donc un deuxième casier s'est ouvert. Et on craint vraiment d'avoir encore d'autres casiers à venir, malgré les promesses qui nous sont faites. On nous avait promis qu'il n'y aurait pas de casier 2, et là, on voit que le casier 2 est là, et on craint vraiment voir d'autres casiers s'ouvrir.
Pourtant, Philippe Sorel, le président de la métropole de Montpellier, le promet, il n'y aura pas de troisième casier. Vous ne le croyez pas ?
Pas du tout. Pas du tout, parce que il n'y a pas de recherche pour l'instant d'autres sites. Donc on risque vraiment d'être coincé et à mon avis, le casier 3 risque de voir le jour prochainement.
Alors vous avez reçu le soutien la semaine dernière de José Bové, l'eurodéputé. Le collectif dont vous faites partie lui a remis une pétition. Le but c'est quoi ? C'est de sensibiliser l'Europe au problème de Castries, d'avoir une sorte de nouveau Sivens, nouveau Notre-Dame-des-Landes ici dans l'Hérault ?
Alors ce qu'il faut c'est faire remonter ça au plus haut, parce que à notre niveau, nous, régional, on a très peu d'impact. Et le fait que José Bové s'intéresse au problème et nous soutienne, peut nous aider. De toute façon, c'est un problème qui nous concerne, nous, dans nos villages, mais c'est un problème national, voire mondial, puisqu'il y a un vrai problème par rapport aux déchets, à leur prix et à que faisons-nous de nos déchets et comment on va se débarrasser de ces problèmes-là.
Concrètement, Greg Solinas, sur place, quelle est la situation ? Il y a des problèmes environnementaux, de nuisances sonores, c'est ça ?
Alors sonore, pas vraiment, c'est des nuisances olfactives, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment les odeurs, ça c'est le ce qui est du domaine du visible, et on a des pollutions des nappes phréatiques qui sont le site qui est exploité actuellement est assez mal choisi, parce que c'est un site où il y a beaucoup de failles et il est au-dessus d'une nappe phréatique. Donc il y a des infiltrations d'eau, il y a des rejets d'eau en dehors de cette décharge, notamment suite au pluie cévenole qu'on a eu au mois de novembre. Il y a eu le casier 2 a été inondé et donc il y a eu des rejets d'eau dans la nature et on a même quelques films qui montrent bien que l'eau sort de cette décharge et va s'infiltrer directement dans les nappes phréatiques.
Au micro de Romain Mercher de RCF Maguelone-Hérault. Un nouveau numéro d'urgence en pleine mer, le 196. Stéphane Perron, directeur adjoint de la DDTM Perpignan, direction départementale des territoires et de la mer, nous en dit plus.
Alors que nous ne sommes encore qu'au cœur de l'hiver, certains d'entre vous pensaient peut-être à l'été et ces sports maritimes que vous aimez tant, que vous êtes si nombreux à aimer. Il y a des nouveautés en matière de sécurité en mer, ce sont deux numéros. C'est une nouveauté surtout pour un numéro d'urgence.
Oui, le ministère en charge de la mer a décidé de mettre en place un numéro court d'urgence. C'est le 196 qui devient le numéro à privilégier en cas d'urgence ou d'inquiétude en mer. Donc grâce à ce numéro, vous avez l'assurance d'être en contact tout de suite avec les autorités et les professionnels du sauvetage capables de répondre à votre demande de secours. C'est un numéro qui est gratuit à partir d'un téléphone fixe et d'un portable. Donc le 196 qu'il faut noter dans vos répertoires. Par contre, le 196 ne se substitue pas à la radio VHF qui reste obligatoire et prioritaire pour alerter le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage et les moyens de secours. Et la VHF a d'autres avantages parce qu'elle permet d'être entendue par d'autres usagers du plan d'eau et a une plus grande autonomie et vous permet d'être repéré beaucoup plus rapidement en cas d'urgence.
En clair, pour quelqu'un qui est sur le littoral, au bord de la mer, il utilise son portable, il compose 196. Et pour quelqu'un qui est équipé, mais en perdition en mer, il utilise la VHF, le 16 de la VHF.
Voilà, absolument. Le 196 est avant tout conçu pour les personnes qui donnent qui ont des inquiétudes ou qui souhaitent rentrer très rapidement en contact avec les services d'urgence et permet d'éviter de passer soit par les codis, soit par les services de gendarmerie. Donc c'est un numéro direct. Vous tombez directement donc au CrossMed à la garde. Par contre, pour les marins qui sont en mer, le canal 16 de la VHF reste le moyen à privilégier. Et si jamais il y avait bien entendu un souci et que vous êtes à portée des émetteurs téléphoniques, à ce moment-là, vous pouvez aussi appeler sur le 196, bien entendu, mais rien ne l'interdit. Mais en mer, le moyen privilégié reste quand même la radio VHF, qui est un moyen dédié particulièrement efficace.
C'était un reportage de Nathalie Dessos pour RCF Pays d'Aude.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Le loup aperçu dans les Hauts-Cantons héroletait un comité de veille constitué par la préfecture. En raison de la présence du canidé dans l'Aude, la Lozère et les Pyrénées-Orientales, et compte rendu d'un indice de passage dans le nord de l'Hérault, ce comité départemental a pour objectif d'anticiper, avec l'ensemble des acteurs concernés, son éventuelle arrivée et les possibles dommages qu'il pourrait occasionner sur des troupeaux. Des précisions sur cette présence, Pierre Maigre, président de la Ligue protectrice des oiseaux, 34, au micro d'Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault.
Alors avant toute chose, je dois préciser que c'est vraisemblablement un loup de passage et qu'il n'y a pas de loup installé pour le moment durablement dans le département. Nous nous en doutions depuis plusieurs années puisque les loups qui ont été signalés et contactés dans les Pyrénées-Orientales, les analyses ADN ont démontré qu'ils étaient tous d'origine italienne et non pas espagnol comme nous l'avions cru au premier abord. Donc ces loups italiens qui surtout n'ont pas été relâchés, et il faut rappeler qu'en France le loup est revenu tout à fait naturellement, ces loups pour faire des Alpes jusqu'aux Pyrénées, ils devaient bien passer par quelque part et on pensait déjà que notre département devait être concerné par le passage du loup.
À quel endroit précisément dans l'Hérault?
Alors c'est le nord du département d'une manière générale qui pour le moment, a vu vraisemblablement passer quelques loups. Voilà.
Alors qu'est-ce qui vous permet de le dire aujourd'hui? Vous avez repéré ces traces, vous l'avez vu?
Alors, il est vrai que les observations qui nous remontent, lorsqu'elles ne sont pas issues de naturalistes confirmés, sont toujours regardées avec beaucoup de prudence. On nous signalait par exemple un loup sur le golfe de Juvignac en plein midi. Bon, on peut pas dire que ce n'est pas ça, hein, mais là, nous sommes quand même très circonspects sur ce genre d'informations. Par contre, ben, on utilise tous les moyens modernes maintenant, c'est-à-dire les analyses ADN, de poils, de crottes, par exemple, que l'on trouve à proximité du cadavre d'une proie, hein, comme un mouflon, par exemple, ou un chevreuil.
Donc ce serait où? Plus dans le Caroux, les Spinouses?
Tout à fait, c'est dans ce secteur que au moins un loup serait passé il y a quelques mois. Hein.
Pierre Maigre, président de la LPO 34, siège dans ce comité de veille sur le loup, mis en place dans l'Hérault. La LPO qui, certes, s'occupe des oiseaux, mais s'intéresse aussi, plus globalement, à la faune sauvage.
Avec ce dernier sujet de Radio Pays d'Hérault, cette édition du Carnet de Région se termine. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi et à vous, les radios associatives de la région, pour votre participation à ce numéro. La semaine prochaine, c'est encore RCF Pays d'Aude qui aura la coordination rédactionnelle du Carnet de Région Languedoc-Roussillon.
Carnet de Région.
Hérault.
Aude,
Gare,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Gare,
Lozère,
Aude.
L'actualité en langue de Roussillon.